parole de Dieu, avant de clore cette soirée de prière, c'est dans le livre des Juges qu'on va trouver notre texte pour ce soir, au chapitre 10 du livre des Juges, et nous lirons simplement les deux premiers versets. Le livre des Juges, chapitre 10, verset 1, nous lisons ceci. Après Abimélec, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issacar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enterré à Shamir. Amen. Il est très intéressant, très enrichissant aussi au plan de l'instruction spirituelle de lire le livre des Juges, parce que d'une manière bien sûr spirituelle, et préfigurative, il y a des enseignements, des principes spirituels qui nous sont révélés et qui peuvent donner à notre foi et à notre marche chrétienne des clés pour remporter des victoires, élucider certaines problématiques. Il y a vraiment dans ce livre des Juges des instructions très très précieuses. Alors ces deux versets, je voudrais simplement rapidement les survoler parce qu'ils renferment des informations très particulières qui méritent d'être considérées. Il nous est parlé d'un personnage, Tola. Il nous est donné quelques précisions le concernant, des précisions concernant son ascendance, ses origines, des précisions concernant le lieu de son séjour terrestre, des précisions concernant aussi l'époque historique où cet homme surgit de l'inconnu, personne n'avait parlé de lui avant, et puis vous allez vous apercevoir qu'il va ensuite, disparaître, il n'y aura plus de référence autre que ces deux versets, mais quand même, ce personnage est un témoin qui nous révèle certaines clés spirituelles. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est la signification de son nom. Donc c'est lui, c'est son identité, qui il est. Tola signifie ver, le ver, la petite bestiole, hein, le ver, voilà. C'est sa personne, c'est son descriptif, c'est le ver. Si on regarde d'un peu plus près la portée spirituelle de ce petit animal, le Messie lui-même, que l'on trouve d'une manière prophétique dans le psaume 22, dont David est l'auteur, dans ce psaume 22 qui décrit avec des détails bouleversants les souffrances de Jésus, son humiliation, son brisement, il y a un verset où il est écrit « Je suis un ver et non plus un homme, le mépriser, le rejeter ». Donc cet animal représente tout simplement la faiblesse humaine. La faiblesse humaine. Je reviendrai sur cette pensée, mais déjà, j'aimerais dire, pour encourager chacun d'entre nous, que Dieu se plaît à choisir des êtres faibles pour glorifier son nom et manifester sa puissance. Le fort, c'est lui. Et les faibles, c'est nous. Mais notre faiblesse peut devenir un élément favorisant la manifestation de sa puissance. Vous avez lu comme moi l'apôtre Paul qui dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort et je me plais même dans mes faiblesses afin que la puissance de Dieu soit sur moi et se manifeste. » Quelqu'un peut-être parmi nous ce soir se sent dans un état de grande faiblesse, désarmé devant les situations, à court d'arguments, à court d'énergie, à court de solutions, à court de sagesse pour régler une solution, eh bien, j'aimerais t'encourager parce que c'est là que Dieu se manifeste. C'est lorsque mes capacités humaines et naturelles ont atteint leurs frontières, c'est là que mon Dieu se lève et que sa puissance se manifeste. Alléluia. Le verre, donc l'image de la faiblesse. Mais c'est incroyable parce que c'est ce verre que Dieu a choisi pour que, au temps choisi, au temps fixé, il se lève pour délivrer. Ça fait rire les incrédules, ça bouscule la logique des hommes. On va parler en quelques instants de l'époque historique concernée. C'était une situation en Israël qui était des plus désespérantes. Le chapitre qui précède termine avec une malédiction. Une malédiction qui pèse sur tout le pays. Et si vous lisez, et je vous y invite, tout le chapitre précédent, c'est quelque chose de saisissant. La mort de Gédéon, Jérubbaal, avec ses 70 fils. Et alors, c'est malgré les 40 ans de sécurité et de paix qui ont marqué l'autorité de Gédéon, dès que Gédéon meurt, c'est le retour à l'idolâtrie, à l'infidélité. Et puis un des fils de Gédéon, poussé par la soif du pouvoir, va tuer ses frères. Abimélec va assassiner ses frères. Quasiment tous ses frères, seul le plus jeune, Jotham, va réussir à se sauver et de la part de Dieu va prononcer une parole de malédiction qui va marquer tout le cours des événements que nous dépeint le chapitre 9. Il y a de la guerre, il y a des choses sauvages, barbares, violentes, et même lui, Abimélec, va finir d'une manière qu'on ne peut pas oublier. Du haut d'une tour, une femme va jeter sur lui une pièce lourde d'une meule et fracasser son crâne. Voilà, c'est comme ça qu'il va mourir. Enfin, pas vraiment comme ça, parce que il avait tellement honte de mourir comme ça. Il va demander à un jeune homme, transperce-moi avec ton épée. Qu'il ne soit pas dit qu'une femme a tué Abimélec avec un bout de une pièce comme ça. Mais quelle tristesse! Et c'est comme cela que se termine le chapitre 9. Et le chapitre 10 commence par « Après Abimélec », après tout ça, après tout ça, après cette désolation qui s'est abattue sur tout le pays d'Israël, cet effroi général, cette malédiction, cette situation horrible, Dieu suscite un verre. Dieu choisit Tola. Alors, ce n'était pas Superman, ce n'était pas Spider-Man, c'était Tola, le ver. Et Dieu relève ses défis d'une manière toujours surprenante. Surprenante. Et si tu étais le Tola que le Seigneur veut utiliser pour relever victorieusement certains défis. Ah, c'est beaucoup plus facile de dire « je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais », etc. Le réflexe que l'on remarque le plus souvent dans certains rendez-vous divins, c'est la rétractation quand Dieu dit à Moïse « je t'envoie pour délivrer Israël du joug du Pharaon ». La première réaction, ce fut un pas en arrière en disant « mais qui suis-je ? J'ai du mal à parler, j'ai ma langue » et là, la fâcheuse tendance à se coller à mon palais, je n'ai pas la parole facile, je ne suis vraiment pas l'homme indiqué. Ça, c'est le réflexe immédiat de la nature humaine. Combien de chrétiens, combien de frères, de sœurs, eh bien, ont manifesté cette première réaction d'un pas en arrière. Et cependant, si c'était toi que le Seigneur voulait utiliser pour manifester sa bonté, sa puissance, sa grâce, accomplir un de ses nombreux desseins, relever un défi. La faiblesse qui nous caractérise n'empêchera jamais Dieu de manifester sa force, sa puissance et sa bonté. Amen. Qu'à partir de ce soir, personne ne dise plus jamais « je ne pourrai pas, je n'y arriverai pas ». Parce que vous savez quoi ? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et dans cette parole, le plus important, c'est avec Dieu. Autant il est vrai que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais alors avec lui, avec son approbation, son assistance, sa présence qui va confirmer notre service, alors nous pouvons faire des choses qui sont des exploits, autrement dit qui dépassent les perspectives les plus belles qu'on aurait pu nous imaginer. Dieu peut encore les dépasser. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un va dire amen à ça? Oui, c'est vrai. Amen. Oh, que le Seigneur me délivre de l'influence handicapante de la conscience que j'ai de ma faiblesse, parce que ma faiblesse n'est pas un handicap, au contraire. C'est lorsque j'ai l'illusion que je suis fort qu'il y a un handicap, un empêchement, un obstacle. Très souvent, Dieu va commencer par me convaincre que je suis qu'un ver, mais qu'il aime quand même, hein, afin ensuite, eh bien, de m'introduire avec lui dans des expériences merveilleuses qui vont le glorifier. Que le Seigneur soit béni. Dans une époque où tout était excessivement décourageant, Dieu suscite Tola, le ver. Sauf que, le pédigré de cet homme, son patrimoine génétique est infiniment plus élogieux et glorieux que son nom. Il est le fils de Pua, qui signifie la bouche. Il est le petit-fils de Dodo, qui signifie celui qui aime. Je pourrais dire que Tola a été engendré par la parole et qu'il a été engendré par l'amour de Dieu. Et que dans son code génétique, d'une manière absolument viscérale, il est porteur de ces deux éléments majeurs, la parole et l'amour de Dieu. C'est l'apôtre Jacques qui confirme: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et écoutez la suite. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Amen. Un chrétien authentique, ce sera toujours quelqu'un qui, à un moment donné de sa marche, va expérimenter cette naissance miraculeuse, cette nouvelle naissance. Il est engendré par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et elle seule qui allume dans le cœur de l'individu la foi, puisque la foi, elle vient de la parole de Christ. Gloire à Dieu. Toutes les personnes qui parfois nous disent « si je vois un miracle, je croirai », eh bien ça me laisse dubitatif. Parce que ce n'est pas les miracles qui suscitent la foi. C'est la parole de Dieu qui suscite la foi et la foi engendre les miracles. Amen. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans Jean 8, mais croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Et quelles œuvres ! Le Seigneur Jésus, en une durée très courte, 3 ans, a accompli. Il en a accompli tellement que Jean va dire que si on les écrivait toutes, le monde ne pourrait pas contenir les livres. Que de miracles, que de prodiges, de résurrection, d'intervention autoritaire face à la tempête, que de paroles prononcées et qui ont suscité une délivrance, le Seigneur Jésus a accompli. Il fait cette remarque, croyez au moins à cause de mes œuvres, mais ces œuvres, pourtant admirables, n'ont pas suscité la foi. Mais la parole de Dieu, elle suscite la foi. Elle a ce pouvoir. Voyez-vous, c'est important d'être des hommes et des femmes imprégnés de la parole de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont familiarisés avec la Bible, qui ont une intimité avec les Saintes Écritures, qui connaissent la Bible, qui en sont habités. D'ailleurs, Paul dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, et d'abord en nous, et ensuite parmi nous, que la parole de Dieu nous habite, nous imprègne. Gloire à Dieu. Voyez-vous, le Saint-Esprit a le pouvoir à l'instant T, devant une situation particulière, de puiser en toi les versets bibliques que tu as accumulés et d'en prendre un et de l'utiliser dans une circonstance particulière. En vous disant ça, j'ai un témoignage qui me revient en mémoire. Ils étaient 3 ou 4 chrétiens à parler avec un incrédule. Enfin, un incrédule, oui, qui était, lui, très croyant dans la réincarnation. Il croyait à la réincarnation. Et alors, les frères ont essayé d'expliquer. Mais lui, alors, à un moment donné, il a dit, écoutez, faisons court, donnez-moi un verset de la Bible, de votre Bible, qui clairement nous montre qu'il n'y a pas de réincarnation. Et brusquement, le Saint-Esprit a saisi un des chrétiens, s'est sorti comme, il n'a même pas pu le retenir. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bouf ! Eh bien, le gars, il a été scié, au sens figuratif, bien sûr. Il a été sans argument, c'est fini. C'était clair, c'était la parole de Dieu. Alors, ce verset, il l'avait lu, il l'avait relu, et dans sa mémoire, il avait tout un patrimoine de versets bibliques, mais ce jour-là, devant tel besoin, le Saint-Esprit a pris la parole précise qui correspondait à une situation. Remplis-toi de la parole de Dieu. Lis ta parole. Médite-la, mémorise-la, surligne, souligne, annote dans les marges, imprègne-toi de la parole de Dieu, alléluia. Et j'aimerais dire une chose, c'est que même lorsque j'ai l'impression que ma lecture biblique quotidienne ne m'apporte pas quelque chose de bien tangible, je lis quand même, parce qu'elle me pénètre quand même. Gloire à Dieu. Comment vous faites-vous quand vous mangez? Est-ce que vous vous régalez toujours? Ben non. On se régale toujours le premier dimanche du mois à Aubagne, ça c'est sûr. On prend quelques kilos. Mais moi, ça m'est... pourtant, j'aime bien... Vous avez vu, hein. Mais il y a des jours où je mange sans plaisir, hein. Parce que je ne suis pas bien, parce que je suis pressé, parce que mon agenda me dit qu'à 13h15, j'ai un rendez-vous. Et la notion plaisir n'y est pas, mais je mange. Parce que je sais que c'est important pour moi. Il y a des moments, mon frère, ma sœur, quand tu vas ouvrir ta Bible, mais tu vas te régaler. Tu ne vas pas voir le temps passer. Tu vas, oh, ça fait 1h15 que je lis ce psaume. Oh, que c'est merveilleux. Donc, voilà, c'est un repas de fête. Tu te régales, la chantilly et tout. Quoi, tu vois, Mais il y a des jours, ça ne va pas être comme ça. Des jours où tu vas lire la parole de Dieu avec un esprit préoccupé. Tu vas avoir du mal à ramener tes pensées. Tu vas devoir même procéder à plusieurs reprises pour te concentrer sur le texte qui est devant tes yeux, n'est-ce pas? Mais fais-le, parce qu'elle te profitera quand même, la parole de Dieu. Que tu aies le plaisir ou pas, l'important, c'est de te nourrir de la parole de Dieu. Ce qui caractérise donc cet homme, qui a été d'une très grande bénédiction, d'une très grande utilité pour sa génération en Israël, c'est qu'il est profondément marqué par la parole de Dieu. Il a été engendré, il est fils de la parole. Il a été engendré par la parole de Dieu. Et le deuxième lien d'ascendance, je voulais citer, il est le fils de Pua la bouche et de Dodo, celui qui aime. Je crois, frères et sœurs, que l'amour de Dieu, parce que celui qui aime, c'est Dieu, hein, l'amour de Dieu doit profondément nous caractériser. Qui est d'accord? Personne. Vous êtes d'accord ou pas? L'amour, mais non seulement l'amour de Dieu doit nous caractériser, mais sachons-le, sans l'amour de Dieu, tout ce que nous pourrions faire ne sert de rien. Vous connaissez ce texte qui est explicite, qui peut être étonnant, mais c'est pourtant la vérité. Voilà. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, c'est pas mal, hein, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est clair. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne périt jamais. Et nous, en fait, objectivement, nous avons été engendrés par l'amour de Dieu. Oui ou non? C'est parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a fait ce don ineffable de son Fils à la croix. Et le résultat, c'est vous et c'est moi. Nous sommes engendrés par l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu fait partie de notre patrimoine génétique spirituel. Et cet amour divin dont nous bénéficions chaque seconde, chaque jour, de janvier à décembre, depuis le jour de notre conversion et même avant la conversion, parce que Dieu nous aime d'un amour éternel, eh bien nous sommes appelés à l'exprimer, à le vivre, à le manifester. L'amour sublime de Dieu, pur, vrai, qui n'est pas et qui ne doit pas être un amour dévalué, au rabais, c'est pas de la sentimentalité, c'est pas de la mollesse, c'est pas de, voyez, non, c'est un amour pur, d'un prix inégalable, incomparable. Eh bien, nous sommes engendrés par l'amour de Dieu et nous sommes appelés à l'exprimer, à le manifester nous-mêmes à tous les niveaux de notre quotidien. En famille, en église, au travail, en vacances, dans les périodes de travail, que sais-je, dans les moments de maladie ou de bonne santé, quelles que soient les séquences par lesquelles nous passons, nous voulons démontrer que nous sommes les fils et les filles de l'amour de Dieu, engendrés par l'amour de Dieu, engendrés par celui qui nous a aimés. Alléluia! Un verre, symbole de faiblesse, mais aux origines glorieuses, engendrées par la parole et par l'amour de Dieu, qui avait comme lieu de séjour, ça peut sembler paradoxal, hein, il habitait Shamir sur la montagne d'Éphraïm, dans la montagne d'Éphraïm. Et Shamir, ça signifie épine, ou les épines. Donc, il habitait parmi les épines, mais en même temps, il était dans la montagne d'Éphraïm, qui signifie fécondité, vie abondante et fertilité. Eh bien, ce paradoxe-là, Dieu veut nous permettre de le vivre en 2025. Mais c'est pas possible. C'est possible ? Alors, je le crois vraiment. Voyez, Dieu n'a pas promis d'éliminer les épines et de les remplacer par une jolie pelouse synthétique de chez Leroy Merlin. Non. Mais Dieu relève le défi que ses enfants seront dans la montagne d'Éphraïm jouissant d'une abondance de vie et de fécondité au milieu des épines. Et aussi longtemps que nous serons sur terre, nous vivrons ce paradoxe. Rassurez-vous, dans le ciel, pas d'épines. Mais sur terre, nous vivrons ce paradoxe. Et ceux qui ont du mal à accepter ça, ont du mal aussi dans leur foi et dans leur persévérance. Les chrétiens qui ont idéalisé les choses en pensant que dès la sortie du baptistère, ça serait pour eux une existence limpide et facile, quoi, puisque on n'arrêtait pas de chanter « Ô joie et paix du cœur, Jésus est mon sauveur !»« Ô joie et paix du cœur !» Alors bon, voilà, et donc on prenait le baptême et on se disait « Le programme du chrétien, c'est joie et paix du cœur !» Oui, joie et paix du cœur, avec des épines. Il y a aussi les épines qui ne doivent pas nous étonner, nous surprendre, encore moins nous troubler ou nous décourager, mais c'est un paradoxe miraculeux. Je peux, au milieu des épines, vivre dans la montagne d'Éphraïm, dans une vie d'abondance spirituelle, mais quand je suis dans l'abondance spirituelle, tout le reste suit, hein. C'est pas vrai? J'ai le moral, les paroles de ma bouche changent, j'ai un discours différent, j'ai un discours d'espérance, de victoire, alléluia, de louange, parce que j'habite dans la montagne d'Éphraïm. Je me demande si on ne peut pas comparer, là je m'avance un peu peut-être, mais bon, je suis d'accord avec moi-même, donc ça va. Est-ce qu'on ne peut pas comparer la chambre haute de l'église première à la montagne d'Éphraïm. Parce que, vous savez, ils étaient tous avec des épines. Il y avait des pensées, il y avait de la compétition entre les disciples, il y avait toutes sortes de choses humaines, quoi, humaines. Il y avait les épines. Et puis, ils sont montés dans la montagne d'Éphraïm. Tous ensemble. C'est fort ce qui est dit. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors, quand ça commence comme ça, on peut espérer les bénédictions les plus glorieuses. Hein. Ils étaient tous ensemble, et dans ce ensemble, je ne vois pas simplement ensemble physiquement ou géographiquement. Non, ils étaient tous ensemble, vraiment. Ils étaient d'un commun accord, il est dit. Donc, il n'y avait plus de divergences, de choses un petit peu problématiques. Ils étaient tous ensemble, d'un commun accord, dans le même lieu. Et au bout de 10 jours, alors, vous le savez, l'Esprit de Dieu a été répandu. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est, pour moi, la montagne d'Éphraïm. C'est la montagne de la fécondité, de la fertilité, de la vie abondante. Les épines, elles seront toujours là. Mais après avoir bénéficié de l'abondance de la montagne d'Éphraïm, eh ben, on est capable de gérer les épines différemment. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, je nous souhaite, en cette année 2025, qui nous donne de vivre dans des temps très difficiles, très difficile. La sauvagerie d'Abimelech, nous la voyons sous les petits écrans à chaque journal télévisé de 20 heures. On entend des horreurs et c'est malheureusement pas de la fiction, c'est de la réalité. J'en parlais rapidement dimanche matin, mais on entend des faits divers horribles, saisissants. On se dit, mais dans quel temps vivons-nous? Nous vivons les temps de la faim. C'est les épines. Sauf que pour nous, ses enfants, Dieu nous donne rendez-vous dans la montagne d'Éphraïm. On était baptisés par immersion depuis quelques semaines seulement. Moi, j'étais donc jeune, hein, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. J'étais un gros dormeur, un lève-tard. Il y a des âges comme ça. Maintenant, 4h30 de sommeil, ça me suffit. Hein. Mais à l'époque, presque on aurait mis un devant. Mais je vous partage ce vécu. Mais alors, on avait un appartement dans la ZUP de Rieux. C'était un F5 et il y avait une pièce qu'on avait appelée l'atelier. C'est là que papa et maman faisaient les costumes sur mesure. C'était l'atelier. Sauf que chaque jour, à 4h30 du matin, maman était réveillée. Et l'atelier devenait pour elle le hall d'entrée du ciel. Et elle se tenait, pour elle c'était la montagne d'Éphraïm. Et elle passait 1h30 là. Alors bien sûr, elle maîtrisait le volume de sa voix. Mais quelquefois, malgré ça, à travers les parois très insonorisées de ses appartements, elle me réveillait. Il y a des moments, elle adressait des prières avec larmes. Parfois, elle parlait en langue, sans hurler, mais elle parlait en langue. Parfois, elle chantait un cantique. Et à travers la paroi, je comprenais quelque chose, je n'avais pas atteint ce niveau moi, mais je comprenais quelque chose au plan spirituel qu'elle était en train de vivre. Elle était sur la montagne d'Éphraïm. Elle était en train d'être visitée par la vie du Saint-Esprit. Et je vais vous dire une chose, tout ce qu'elle recevait le matin de bonne heure s'exprimait jusqu'au soir. Ça s'exprimait jusqu'au soir. Une vitalité, une expression de joie qui n'avait rien de raisonnable, c'était céleste. quelque chose de bienfaisant, une bénédiction. C'était agréable de la voir parmi nous, de parler avec elle, de l'entendre nous parler. C'était bon, mais tout ça, elle l'avait puisé le matin de bonne heure dans la montagne d'Éphraïm. Voilà, alors, si vous voulez qualifier votre coin intime, votre bureau, votre cuisine, je ne sais pas, un endroit de votre maison, montagne d'Éphraïm, mettez un panneau. Montagne d'Éphraïm, en tout cas, c'est quelque chose qui est absolument déterminant pour une vie chrétienne féconde, porteuse de fruits et de résultats glorieux pour le Seigneur. Seigneur, permet que cette année 2025, nous puissions restaurer notre vie de prière et nos rencontres avec Dieu. C'est peut-être la décision qui va le plus effrayer notre adversaire. Un ancien revivaliste disait une chose. Quand le diable trouve une église qui dort, il la traverse sur la pointe des pieds pour ne pas la réveiller. Mais quand c'est le contraire, quand les chrétiens commencent à prendre et à envisager des résolutions spirituelles, par exemple de restaurer notre vie de prière, ça, c'est quelque chose qui met dans l'état-major diabolique une panique. Frères et sœurs, paniquons le diable. Amen. Faites-moi quelque chose. Retrouvons nos rendez-vous divins à la montagne d'Éphraïm. Laissons le Saint-Esprit nous renouveler. Qu'un parler en langue rafraîchie s'exprime chaque matin. Gloire à Dieu. Je sais que c'est dur. Ça va être de plus en plus dur parce que l'organisation de la vie moderne et qui est régie par l'adversaire fait tout pour rendre difficile cela. Mais qu'avec la grâce de Dieu, nous puissions réussir à mettre à part un temps de rendez-vous à la montagne d'Éphraïm. Et puis donc, voilà pour le descriptif de ce personnage, l'époque historique. Je termine. Il y a un moment, quelque chose s'est produit dans le cœur de cet homme. Et je le crois, ça a été suscité par le Seigneur. Il se leva pour délivrer. Et ça lui est pas venu avec son imagination, ça serait bien peut-être que... Non. Moi, je comprends qu'à un moment donné de la vie de cet homme Tola, il y a eu comme une intervention divine, une révélation. Je veux que tu te lèves, et que tu te lèves pour un but bien précis, pour délivrer. Donc, il y a une vision qui a enflammé son cœur. Il n'y avait pas pensé avant, mais il y a quelque chose qui a bouleversé son cœur, qui a allumé en lui une motivation de source divine, se lever pour délivrer. C'est un peu l'expérience qu'a vécu le vieux Jacob, qui pendant trop longtemps était resté prostré, abattu. Et lorsque le témoignage de ses frères de retour d'Égypte lui est apporté. Ça a été long, son cœur était froid, mais petit à petit, il s'est réchauffé. La foi a commencé à sortir de son hibernation et à un moment donné, Jacob a dit « c'est assez, ça suffit, je me lèverai ». Et ça a marqué une frontière. Il y avait l'avant et il y a eu l'après. C'était plus le même Jacob. Le Jacob prostré, pétrifié, ramenant le replay d'un film d'horreur, la mort de son fils. Tout ça, c'est arrêté. C'est assez. Est-ce que quelqu'un, ce soir, par l'action du Saint-Esprit dans son cœur, va dire, Seigneur, c'est assez. Je ne veux plus demeurer ce que je suis depuis trop longtemps, avec mon pessimisme, avec mon esprit démissionnaire, découragement chronique. C'est assez de cela, c'est assez. Avec mes questionnements et mes re-questionnements, mes remises en question, mes remises en cause, et les pourquoi, et les comment, et les si, c'est assez de cela. Je me lèverai. Le monde a besoin d'une église qui se lève pour délivrer. Jésus a dit, je vous envoie. Et quel programme, hein ? Allez, ressuscitez les morts. Alors, bon, c'est au plan spirituel, ils sont tous morts. Quand on ne connaît pas Jésus, on est mort. Ressuscitez les morts, guérissez les malades et dites, le royaume des cieux s'est approché de vous. Il y a une mission et quand Jésus définit la feuille de route, ça donne une vision enflammée aux 12 d'abord, aux 70 plus tard, et je prie pour que l'Église tout entière se laisse aussi embraser. Levez-vous et allez. Il s'est levé pour délivrer. Pas moins que ça. Pour délivrer. Et tout ça, c'est un programme. Il y a des chaînes qui doivent tomber. Hein. Il y a des situations devant lesquelles tout le monde a renoncé qui doivent changer. Pour délivrer, délivrer. Pour sortir d'un état de perdition les âmes que l'adversaire tient sous son joug et les amener à la connaissance de Jésus-Christ. Parce que le libérateur, c'est lui. Amen. Alors, voilà. Pour ça, il faut se lever. Amen. Il faut que notre foi soit debout. Notre zèle soit rétabli. Notre joie soit ravivée. Alléluia, notre motivation. Et je termine, c'est promis, je termine. Parlant de sa descendance, il est quand même ajouté, c'était un homme d'Issacar. Issacar, ça signifie, il est le salaire. La Bible me dit, concernant Moïse, que lorsque Moïse est devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur le salaire, la rémunération. Et moi, il m'arrive souvent, je vous le dis donc comme ça, hein, dans la simplicité, il m'arrive souvent de dire au Seigneur, « Seigneur, la seule chose que je te demande, lorsque je serai à l'entrée de ton ciel et que tu m'accueilleras, la seule chose que je te demande, c'est que tu puisses me regarder et me dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » C'est tout. Que je sois attablé à côté d'Abraham ou de Moïse, bon, ça, après on verra ça plus tard. Hein. Mais j'aimerais tellement que celui que j'aime et que je sers puisse apporter ce témoignage de satisfaction. Pour moi, c'est la rémunération, c'est le salaire. C'est dès ici-bas que nous devons, comme Moïse, regarder à la rémunération. Gloire à Dieu, hein. Comme dans les usines de l'époque, quand j'étais étudiant, je faisais des jobs d'étudiant, et dans les usines, vers la fin du mois, tous les ouvriers disaient « Ah, bientôt la paye !» C'était la formule la dernière semaine du mois. « Bientôt la paye !» Eh bien, moi j'ai envie de dire « Bientôt la rémunération !» Et moi j'ai envie déjà de regarder à la rémunération. Les félicitations, les compliments ou au contraire les désapprobations et les critiques m'importent pour zéro. L'important, c'est que lui, mon sauveur, mon Dieu, puisse le moment venu, en guise de rémunération, m'exprimer son contentement. Et c'est bien. Et Dieu veut le faire pour chacun de ses enfants. Mais chacun de ces enfants, dès ici-bas, doit ajuster et régler la gestion de son quotidien en vue de la rémunération. Je ne veux pas vivre pour moi-même, je ne veux pas chercher mes intérêts, mais je veux être porté et transporté par la vision des intérêts de Christ et par la vision du salut des perdus et de l'édification de l'Église. Et ça, ça doit être sur le cœur et dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Amen.